en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Jean-Robert Pitt, géographe, ancien président de l'Université de Paris 4 Sorbonne, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, a prononcé une communication sur la loi du 10 août 2007 et l'autonomie des universités le 29 juin 2009 devant ses confrères lors de la séance hebdomadaire de l'Académie. Canal Academy vous propose d'écouter la retransmission de sa communication. Retrouvons Jean-Robert Pitt en salle des séances.
J'ai une mission difficile aujourd'hui qui est celle de parler juste avant notre ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche à propos de la loi qu'elle a fait sur les fonds baptismaux en la faisant adopter par le Parlement le 10 août 2007, peu de temps après l'élection du président de la République en vertu du principe bien connu en France selon lequel les lois importantes doivent être votées dans la foulée d'une élection présidentielle. Permettez-moi de commencer en vous relatant une expérience récente. Je n'ai pu assister, participer à notre réunion de la semaine dernière car j'étais invité à l'université de Maastricht, comme on dit là-bas, aux Pays-Bas, à l'invitation de son président, Joritsen, et qui réunissait un comité stratégique pour réfléchir à l'avenir de son établissement. J'ai dû, évidemment, vous en doutez, répondre à de multiples questions à propos de la situation des universités françaises, personne ne comprenant chez notre voisin cette agitation de l'hiver et du printemps 2009 qui s'est traduite dans un certain nombre d'entre elles par 4 mois de grève sans perte de salaire, bien entendu, une session d'examen plus ou moins bâclée qui est en train de s'achever et des diplômes au rabais. Les étudiants Erasmus des Pays-Bas qui ont séjourné en France en ont gardé un amer souvenir. Alors que répondre à ces bons collègues de Maastricht, sociaux-démocrates dans leur majorité, ce qui se traduirait en français par socialistes, et qui appliquent une réforme que leur président actuel a mise en œuvre au début des années 1990, lorsqu'il était ministre de l'Éducation nationale des Pays-Bas, et qu'il avait institué une véritable orientation-sélection à l'entrée des universités, des droits d'inscription significatifs qui se montent aujourd'hui à 1 500 euros, des liens forts avec les entreprises, une évaluation permanente et indépendante des enseignements et de la recherche, une attention soutenue à la concurrence et aux classements nationaux et internationaux, des salaires contractuels variables selon le mérite des enseignants et des personnels administratifs. Ajoutons que le mode d'élection des présidents et de leurs adjoints est totalement indépendant des professeurs locaux et encore plus des étudiants et des personnels administratifs. Le comité de gouvernance de l'université, entre autres chargé de choisir le président après large appel à candidature et consultation de la communauté, est constitué de 5 personnes seulement, venues du monde de l'entreprise ou de la vie intellectuelle, mais pas de l'établissement. Parmi elles, en ce moment, l'ambassadeur d'Inde aux Pays-Bas, qui est une dame. Bien entendu, le président choisi doit, après son élection, présenter ses choix devant les doyens et l'assemblée des professeurs de chaque faculté. Il existe aussi un conseil des étudiants qui donne son avis, et exclusivement sur ce sujet, sur la pédagogie et sur la vie matérielle du campus. Toute la communauté universitaire est tendue vers des objectifs de haut niveau, des étudiants toujours meilleurs, recrutés dans l'ensemble du pays et à l'étranger, beaucoup en Allemagne par exemple, des recherches aux résultats évalués en permanence et internationalement reconnus, un budget public complété de ressources privées en hausse constante, une communauté d'anciens élèves, d'alumni active, une attention soutenue aux débouchés professionnels des étudiants. Un détail, permettez-moi de vous le relater, montre l'état d'esprit de cet établissement. Les meilleurs étudiants, dans la limite de 3% des effectifs totaux, sont conviés chaque année à une grande cérémonie au cours de laquelle ils reçoivent en récompense un chèque du montant des droits d'inscription qu'ils ont versé quelques mois auparavant. Je vous laisse imaginer les réactions que provoquerait une telle pratique, une telle mesure dans notre pays. J'ai souhaité vous exposer cet exemple pour vous dire à quel point l'université française vit sur une autre planète, totalement déconnectée des réalités européennes, tout au moins de celles de l'Europe du Nord. L'active résistance aux réformes d'une minorité de professeurs, de chercheurs, de personnel administratif et d'étudiants, s'appuyant sur la passivité générale de la majorité depuis des décennies, témoigne d'un conservatisme incompréhensible au-delà de nos frontières. C'est également vrai, d'ailleurs, à l'intérieur de celle-ci, au sein du milieu de l'entreprise, par exemple, ou même de la politique droite et gauche confondues. Les grands partis politiques français, les parlementaires, les gouvernements successifs et de couleurs alternées se méfient comme de la peste de l'idée de réformer l'université, comme d'ailleurs l'éducation nationale en général. Notre confrère Xavier Darcos pourrait en témoigner savamment. Les 2 années qui viennent de s'écouler ne sont pas faites pour les inciter à changer d'avis sur ce point. Les communautés universitaires, surtout dans le secteur que je connais le mieux, celui des humanités, s'arc-boutent sur un état de fait qui les maintient dans le rôle ingrat d'accueil de tous les étudiants non retenus dans les formations sélectives, lesquels représentent environ, ceux des formations sélectives, 35 à 40% des bacheliers, et s'accommode de la sélection par l'échec, ou pire, parce que c'est plus tardif, par la porte étroite de l'entrée dans la vie professionnelle des étudiants diplômés. Ce dernier étranglement s'explique par le refus de tout lien avec le monde de l'entreprise et plus largement le monde professionnel qui, pense-t-elle, les priverait de leur indépendance intellectuelle et les précipiterait vers l'abandon des savoirs généralistes et vers ce qu'elle nomme une marchandisation, entre guillemets, et un utilitarisme de l'enseignement supérieur. Il en résulte évidemment, vous le savez, un manque cruel de moyens financiers. Les récents et réels efforts de l'État, je vous rappelle, 1 milliard d'euros annuels pendant plus de 5 ans pour l'ensemble des universités, demeurent insuffisants pour offrir aux universités le même budget par étudiant que les classes préparatoires ou les grandes écoles publiques, sans parler de celles qui relèvent du secteur privé. La gratuité, considérée comme une garantie d'égalité des chances, interdit toute responsabilisation mutuelle des universités, de leurs étudiants et de leurs familles. Rappelons qu'après les Pays-Bas, le Royaume-Uni et l'Allemagne ont sensiblement haussé les droits d'inscription dans les universités publiques, 3 000 livres en Grande-Bretagne et 1 500 euros en Allemagne. Décision prise, je vous le rappelle aussi, par des gouvernements de gauche, ceux de Tony Blair et de Gerhard Schröder. Bien entendu, existent dans ces pays des systèmes variés de bourses au mérite, et je dis bien au mérite, et de prêts d'honneur. Alors, pardonnez-moi ce long préambule, mais je crois qu'il est nécessaire pour comprendre la teneur de la loi dite LRU, Liberté et responsabilité des universités, dont j'ai le texte intégral ici. D'aucuns penseront, et je sais qu'il y en a un certain nombre dans cette salle, qu'elle n'est pas allée assez loin, cette loi, dans la réforme. Mais il faut comprendre que si l'on a si longtemps résisté à une refonte du système dual qui régit notre enseignement supérieur, qu'il est chaque jour plus difficile de le réformer. Ainsi en est-il des mauvaises habitudes. Comme sur bien d'autres points, notre pays recule tant qu'il peut devant les réformes nécessaires et s'y résout généralement au terme de grands soubresauts politiques et sociaux, accompagnés de toutes les dérives violentes dont il a le secret depuis le XVIIIe siècle au moins, et même avant, si l'on pense aux jacqueries et à certaines autres manifestations de l'époque des guerres de religion, par exemple. De toute évidence, le président de la République et le gouvernement actuel n'ont pas souhaité provoquer une émotion populaire massive à l'orée du quinquennat. Et c'est la raison pour laquelle, notre ministre nous le dira peut-être tout à l'heure, la préférence a été donnée à des choix qui sont réellement neufs, mais d'ampleur limitée, dans l'espoir que, grisés par les nouvelles libertés et responsabilités qu'on leur offrait, les universités iraient d'elles-mêmes au-delà. Je souhaite évidemment ardemment qu'il en soit ainsi, même si le chemin risque d'être fort long. N'oublions pas, pour achever de situer le contexte, que le précédent gouvernement, celui de Dominique de Villepin, avait été ébranlé par la violente résistance à la modeste réforme de l'insertion professionnelle des jeunes, dite contrat de première embauche, CPE, au printemps 2006. Ce n'est un secret pour personne que l'étudiant qui a présidé l'UNEF de juillet 2005 à décembre 2007, j'ai nommé M. Bruno Julliard, figure de proue du mouvement anti-CPE, a pesé de tout son poids, et la presse en a témoigné à l'époque, sur le contenu de la loi LRU, en particulier en obtenant, contre une certaine tranquillité de l'UNEF, que la non-sélection et la gratuité ne seraient pas remises en cause. M. Julliard a aujourd'hui 28 ans, il est adjoint au maire de Paris, chargé de la jeunesse et secrétaire national à l'éducation du Parti socialiste. L'UNEF s'est opposé pour la forme à l'application de la loi à l'automne 2007 et au printemps 2009, mais elle a été largement dépassée sur sa gauche. Les plus virulents des grévistes furent les coordinations, qui ne sont pas des syndicats, qui sont des mouvements flous, mais quand même très très bien menés, et mouvements d'extrême gauche mêlant étudiants, professeurs, administratifs et évidemment un certain nombre de militants professionnels extérieurs au monde universitaire. Entrons maintenant, si vous le voulez bien, dans l'exposé des principales nouveautés qu'institue cette loi par rapport à la précédente, préparée, je vous le rappelle, en 1983 par M. Alain Savary, ministre de l'Éducation nationale, et votée en janvier 1984 donc à l'époque du gouvernement de Pierre Mauroy. Premier point, concernant les missions du service public de l'enseignement supérieur. Elles étaient jusqu'à maintenant au nombre de quatre. La formation initiale et continue, et je dis bien continue, ce qui est souvent très difficile à mettre en place dans les universités, mais ça existait déjà dans la loi précédente, la recherche scientifique, la diffusion de la culture et de l'information scientifique et technique, la coopération internationale. C'était les quatre missions officielles des universités. La loi LRU ajoute deux missions importantes qui sont, premièrement, l'orientation et l'insertion professionnelle, et deuxièmement, la participation à la construction de l'espace européen de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ce ne seront pas les réformes les plus faciles à mettre en œuvre, mais pourtant, elles sont essentielles, et c'est une véritable révolution que de dire aux universités, vous devrez, certaines le faisaient spontanément, mais dans mon domaine, pratiquement pas, sauf quelques écoles particulières, comme le CELSA à Paris-Sorbonne. Mais se préoccuper de l'insertion professionnelle fait partie aujourd'hui des missions légales des universités. Deuxième point, beaucoup moins important, parce que c'était très formel, la conférence des chefs d'établissement, qu'on appelait CPU, conférence des présidents d'université, n'est plus présidée par le ministre, comme c'était le cas auparavant, mais par un membre élu. Donc c'est devenu une association qui a une plus grande marge de liberté vis-à-vis du ministère. Troisième point, un bureau d'aide à l'insertion professionnelle des étudiants est créé dans chaque université, notamment chargé de diffuser aux étudiants une offre de stage et d'emploi variée en lien avec les formations proposées par l'université. Ça n'est pas une mince réforme. Ça n'est pas mis en œuvre actuellement, je vous le dis tout de suite, mais ça n'est pas une mince réforme. Il s'agit d'une mesure qui devrait entraîner une véritable révolution dans les mentalités universitaires. Bien entendu, les IUT et autres écoles internes, ainsi que les équipes pédagogiques des formations professionnalisantes, licences professionnelles, masters professionnels, appliquent déjà ce principe depuis longtemps. L'important est de le généraliser. Il faut tordre le cou, je crois, à l'une des idées les plus pernicieuses, très répandues dans le monde universitaire français, surtout dans le secteur des lettres et sciences humaines, c'est que la création et la transmission du savoir au plus haut niveau sont contradictoire avec les préoccupations d'insertion professionnelle des étudiants. On fait l'un ou l'autre. Et si l'on s'occupe d'insertion professionnelle, on sera un mauvais chercheur et un mauvais enseignant. C'est ce que pensent beaucoup, beaucoup de collègues universitaires. Ces dernières préoccupations ne relèveraient que du seul secteur économique qui doit se charger de former les employés dont il a besoin. C'est un discours qu'on a entendu beaucoup ces derniers mois à propos de l'application de la loi. Et voici pourquoi le taux de chômage des jeunes est si élevé en France. Je vous rappelle, le mois dernier, 21,5% des 15-24 ans sont des demandeurs d'emploi, ce qui place notre pays au 23e rang sur 30 parmi les pays de l'OCDE. Il n'y a vraiment pas de quoi s'en glorifier. Quatrièmement, une excellente mesure complémentaire qui s'ajoute à la précédente. Les établissements, je lis le texte de la loi, les établissements sont tenus de publier des statistiques comportant des indicateurs de réussite aux examens et aux diplômes, ce qui est logique, mais ça ne se faisait pas jusqu'à maintenant, ça ne se fait toujours que très très peu, de poursuite d'études et d'insertion professionnelle des étudiants. Ce sera à l'État de vérifier son application honnête et rigoureuse à l'occasion de la signature des contrats quadriennaux. J'avais, lorsque j'étais en fonction, créé un observatoire de l'insertion professionnelle en y plaçant deux sociologues, collègues de mes voisins, excellents, qui ont magnifiquement dirigé et animé cette équipe, plus deux statisticiens. Nous avons mis les résultats des premières enquêtes sur le site Internet. Je crois que cet observatoire est malheureusement en panne, alors que dans une université littéraire, c'est tellement important de dire quels sont les disciplines et les filières qui offrent plus facilement des débouchés et des salaires normaux que d'autres. Cinquième mesure, tout candidat est libre de s'inscrire dans l'établissement de son choix. Donc ça, c'était, la victoire de l'UNEF, sous réserve, il y a quand même une nuance, d'avoir au préalable sollicité une préinscription lui permettant de bénéficier du dispositif d'information et d'orientation du dit établissement, qui doit être établi en concertation avec les lycées. Alors, il faut bien reconnaître que cette disposition, qui est excellente en elle-même, l'idée d'une orientation obligatoire des lycéens avant d'entrer dans l'enseignement supérieur, à défaut d'une sélection, n'a pas été appliquée sérieusement jusqu'à maintenant, c'est-à-dire depuis 2 ans que cette loi a été votée. Les universitaires ne souhaitent pas y consacrer de temps, que ce n'est pas leur travail, Beaucoup d'entre eux, les personnels administratifs s'estiment débordés pour encadrer cette réception des lycéens. Les lycées qui possèdent des classes préparatoires ne souhaitent pas du tout se séparer de leurs meilleurs élèves et ne les incitent donc pas à se tourner vers les universités. Et d'ailleurs, ces bons élèves et leurs familles sont tout à fait convaincus que ce n'était pas la peine d'aller vers l'université. Et après le printemps que nous venons de vivre, peu de bons élèves ayant la mention bien ou très bien au baccalauréat viendront à l'université, sauf peut-être l'université Panthéon-Assas, qui vient de mettre sur pied un système l'année dernière où l'on prend 100 étudiants dans une école de droit enseignement renforcé, nourrie à l'Agelée Royale, 100 étudiants ayant la mention très bien au baccalauréat. Mais ça, c'est Paris 2, Panthéon-Assas, est sur le chemin de Dauphine. Dans quelques années, Paris 2 aura rejoint le camp de Dauphine, donc ce sera un grand établissement et non plus une université, j'en suis à peu près persuadé. Quant aux moins bons élèves des lycées, ils craignent d'être découragés d'entrer dans l'enseignement supérieur général ou d'être discrètement écartés au moment de l'inscription définitive, donc ils ne remplissent pas le dossier. Parce que ça a beau être obligatoire, comme personne ne vérifie que cette préorientation a été accomplie, c'est une mesure qui reste très, très théorique, malheureusement. Quant aux bons élèves des sections professionnelles et technologiques, et ils sont souvent excellents, ils sont d'office dirigés vers les BTS et vers les IUT, qui ne se privent d'ailleurs pas du tout de sélectionner parmi ces élèves ou de recruter également de bons bacheliers qui viennent des sections générales, de bacheliers ES ou scientifiques, qui vont en IUT, parce qu'ils savent qu'après l'IUT, ils pourront rentrer en licence professionnelle, en master, dans une université normale, et qu'ils auront échappé à cette tragique situation qui est le premier cycle, et surtout les deux premières années de licence des universités françaises, encore une fois, surtout dans le domaine littéraire et juridique. Beaucoup moins en sciences et pas du tout en médecine, puisque, comme vous le savez, il y a une sélection à la fin de la première année, très draconienne. Sixième mesure, le recrutement des enseignants-chercheurs des universités s'effectue parmi des candidats qualifiés par les sections du Comité national des universités, ça ne change pas, par l'intermédiaire de comités de sélection proposés par le président, ça c'est une grande nouveauté, et nommés en conseil d'administration après avis du conseil scientifique. Donc le président peut exercer un poids très fort, très lourd, sur le recrutement des enseignants. La moitié des membres de ces comités de sélection doit être extérieure à l'établissement pour éviter le localisme. Le président dispose d'un droit de veto, mais compte tenu de la situation des universités, on imagine mal qu'un président exerce ce fameux droit de veto. Alors la première année de fonctionnement de ce nouveau système, c'est celle qui s'achève ici, l'année 2008-2009, dénote peu de changements par rapport à la procédure antérieure, hormis la difficulté de réunir les fameux comités de sélection qui sont aussi nombreux que les postes à pourvoir, puisqu'on doit avoir un comité différent pour chaque poste, et qui comporte, il est très difficile de réunir autant de membres extérieurs, surtout au printemps, au moment où tout le monde est très occupé, donc ça a fonctionné très très mal dans beaucoup d'universités. Et donc je pense qu'il y aura beaucoup de recours dans les semaines et les mois qui viennent. Donc malgré les apparences, je pense qu'hélas, le localisme a un très bel avenir devant lui, en particulier dans certaines universités de province. Septième mesure, tous les personnels titulaires et contractuels sont évalués, je pense aux enseignants-chercheurs, mais aussi aux administratifs, par l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur. C'est une mesure qui doit permettre aux présidents et aux équipes de direction d'organiser les services, et c'était bien l'objet de la grogne qui est intervenue dans nos universités à partir du mois de décembre, c'est le décret d'application de cette mesure, donc la liberté d'organiser les services, d'attribuer les primes, les intéressements, quand il y a des contrats et par conséquent de l'argent qui rentre à l'université, et les promotions des personnels. Donc c'est un poids très grand, un pouvoir très grand qui est donné au président et aux équipes de direction. Et cette modulation des services, des primes, etc., se fait évidemment en fonction des capacités des membres de la communauté universitaire, de leur goût et évidemment de leur mérite, de leur manière de servir. Mais ça, c'est un mot qui, comme vous le savez, est difficile à prononcer dans notre monde universitaire actuel. Cette mesure, qui relève de ce qu'on pourrait appeler un bon sens managérial, évident, est vigoureusement rejetée par les enseignants-chercheurs qui craignent d'être jugés sur leur performance, ce qui est pourtant la règle générale dans le reste de la fonction publique, il ne faut pas l'oublier, et dans la plupart des pays du monde, dont beaucoup vont bien plus loin, puisque l'on y négocie son salaire contractuellement. C'est par exemple le cas aux Pays-Bas, où le salaire d'un grand professeur, c'est ce qui se passe à l'université de Maastricht, peut atteindre le niveau du salaire du Premier ministre des Pays-Bas. Ce qui montre que, et aux États-Unis, vous savez que certains grands professeurs négocient à un niveau très très élevé leur traitement. Alors, ce n'est un secret pour personne que, ça je sais que dire cette phrase que j'avais osé écrire dans un grand quotidien il y a quelques mois m'a valu une volée de bois vert, mais il faut bien reconnaître qu'un nombre important d'enseignants-chercheurs n'effectuent plus de recherche et ne publient plus. Donc les chiffres varient selon les disciplines et les universités et les âges et les statuts, les grades, entre 20 et 50% des enseignants-chercheurs. Il n'est pas politiquement correct de le dire, mais je le dis très clairement. Ça avait d'ailleurs été relevé par la mission scientifique du ministère il y a 2 ou 3 ans, et c'est écrit. Et ça a été établi, ce chiffre, à partir des contrats, c'est-à-dire des dossiers rendus par les universités avant la signature du contrat. Pourquoi cela ? C'est dramatique, parce que ces gens s'ennuient et ils n'ont plus de plaisir à enseigner. Quand on ne fait pas de recherche au bout de 7 ou 8 ans, qu'est-ce qu'on peut enseigner ? Sortir ses vieux papiers et rabâcher ce qu'on a déjà enseigné plusieurs fois de suite ? Ce n'est pas possible. Même un professeur du secondaire lit, nourrit, je pense surtout au professeur de classe préparatoire, lit et nourrit son enseignement. Sinon, ce métier n'a strictement aucun intérêt. Donc, c'est le résultat, je crois, d'une insuffisante gestion des ressources humaines par les équipes dirigeantes des établissements et depuis fort longtemps. La modulation des services, je trouve, est un moyen raisonnable de remobiliser l'ensemble des personnels, de généraliser, parce que quelqu'un qui ne fait plus de recherche peut peut-être être utile pour les relations internationales, pour les liens avec le monde de l'entreprise, pour la formation continue, pour toutes sortes d'activités qui rentrent dans les 6 missions des universités et qui sont indispensables à l'avenir de l'enseignement supérieur. Mais il faut donner du travail intelligent et intéressant aux gens, ne pas les laisser s'aigrir, se racornir, comme ça se passe, hélas, y compris pour des jeunes. Je le vois, j'ai l'expérience dans ma propre UFR, qui ont 35, 37 ans, c'est-à-dire qui ont été recrutés 5 ou 7 ans auparavant. En général, on est recruté en lettres entre 29 et 30 ans comme maître de conférence, et certains avec un très bon dossier en général. Il y a 50, 100 candidats sur un poste, et certains sont démobilisés au bout de 5, 7, 10 ans, ce qui est un drame total pour eux, parce qu'ils se préparent à un âge adulte et une vieillesse triste, je trouve. Et en plus, d'une certaine manière, on peut dire qu'ils usurpent leur salaire, leur traitement, pardon, il n'y a pas de salaire. Donc, cette modulation des services, je trouve, serait un moyen, y compris d'ailleurs si l'on introduit les années sabbatiques, ce qu'un président peut tout à fait organiser. J'avais proposé cela il y a un an et demi en disant, eh bien voilà, nous allons organiser un système d'années sabbatiques généralisées sur projet, évidemment, et avec un compte-rendu donné par le collègue bénéficiant de l'année sabbatique. Ça existe dans tous les pays civilisés. La France est le seul pays dans lequel les universitaires ne bénéficient pas de 3 ou 4 années sabbatiques dans leur carrière, leur permettant une recherche approfondie, une publication de haute qualité, une reconversion thématique, une mission importante à l'étranger, un enseignement de plusieurs mois à l'étranger, tout ce qui est nécessaire pour se renouveler et pour continuer à exercer sa mission d'universitaire avec panache et plaisir. Donc c'est une culture, tout ça, qui s'apprend, et qui s'apprend tout simplement en regardant ce qui se passe à l'étranger. Il suffit d'aller voir ce qui se passe chez nos voisins. 8e mesure, les établissements gèrent, s'ils le demandent, et ils vont tous être obligés de le demander dans les années qui viennent, dans les 4 années qui viennent, gèrent de manière autonome et globale leur budget, ce qui leur permet de répartir leurs ressources en fonction de leur choix stratégique, salaire, bâtiment, bibliothèque, etc. 1/5 des établissements a accédé en 2009 à cette nouvelle compétence, surtout des universités dans lesquelles il y avait des économistes, vous vous en doutez, qui, eux, ont été très intéressés immédiatement par, et des gestionnaires, par cette mesure. Et c'est une compétence qui, évidemment, marque un réel progrès vers l'autonomie. Les établissements peuvent bénéficier également du transfert gratuit des biens mobiliers et immobiliers de l'État. Ceux qui disposent de vastes terrains à bâtir et de bâtiments en bon état ont tout intérêt à le demander. Je pense à l'université Pierre et Marie Curie, par ici, qui a les immenses terrains de Jussieu et qui n'attend que cela pour vendre une partie de ce patrimoine et faire d'autres choses, parce que ce n'est pas la place qui manque à Jussieu. Des universités qui ont des bâtiments qui n'ont pas été entretenus depuis 40 ans, des bâtiments paillerons et qui n'ont pas de terrain, n'ont guère intérêt à accepter ce cadeau empoisonné de l'État. 9e mesure qui est complémentaire de la précédente, chaque établissement peut créer une fondation et bénéficier donc de fonds de mécénat qui sont fiscalement avantageux pour ses partenaires publics et privés. Vous vous en doutez, il y a un certain nombre d'universités qui, même si elles créent une fondation, n'obtiendront jamais d'aide de mécènes publics ou privés, parce que c'est un peu le tonneau des Danaïdes. Qui voudrait donner à de l'argent à une université s'il n'a pas la certitude que les étudiants trouvent un emploi à la sortie, au moment de la diplomation? Je crois que je suis à la 10e mesure, c'est l'avant-dernière, rassurez-vous. Le président des universités est un enseignant-chercheur ou un chercheur élu pour 4 ans, renouvelable une fois. Ça, c'est nouveau, les présidents n'étaient pas renouvelables, sans qu'ils soient nécessairement affectés à l'établissement, ni même français. Cela dit, il faudra attendre bien longtemps, je crois, avant que des présidents venant d'autres établissements et étrangers soient élus dans une université française. Dans une université que je connais bien, l'université de Bonn, en Allemagne, les 3 derniers présidents ont été recrutés en Suisse. Ils n'avaient jamais enseigné à Bonn auparavant. Mais les universitaires suisses sont de très très haute qualité, comme chacun sait. Le conseil d'administration, donc, qui choisit le président, comprend, selon les modalités actuelles de la loi LRU, de 20 à 30 membres, élus au scrutin de liste, avec une prime majoritaire dans les collèges des professeurs et des enseignants-chercheurs. Les étudiants sont au nombre de 3 à 5 et les personnels administratifs au nombre de 2 à 3, ce qui est jugé très insuffisant, évidemment, par les organisations syndicales, vous vous en doutez. Pourtant, les élections qui ont eu lieu ces derniers mois, en 2008 et en 2009, ont démontré que les majorités étaient souvent opposées chez les professeurs et chez les maîtres de conférences. C'est-à-dire que les candidats organisaient des listes dans le collège A et dans le collège B, mais que c'était un candidat qui l'emportait dans le collège A et un autre qui l'emportait dans le collège B. Donc la conséquence est facile à imaginer. Le choix du président revient donc, dans ce cas-là, aux étudiants et au personnel administratif qui mettent la barre démagogique très très haut. C'est tout à fait facile à imaginer. Et ça s'est passé comme ça, et il y a au moins une douzaine d'exemples que je pourrais citer d'universités où ça s'est passé comme ça ces derniers mois. Les personnalités extérieures, au nombre de 7 ou 8 dans la loi actuelle, rejoignent le Conseil sur proposition du président élu et ne participent donc pas à son élection. Il s'agit là, sans doute, et je le dis, d'ailleurs je l'ai déclaré à notre ministre avant même le vote de la loi et à un certain nombre de parlementaires en leur attirant leur attention sur les dangers de cette mesure, que les personnalités extérieures ne soient pas parties prenantes dans l'élection du président, c'est un recul par rapport à la loi Savary. La loi Savary de 1984 prévoyait que les collectivités territoriales, les grandes organisations d'employeurs et de cadres désignaient leurs représentants préalablement, c'est-à-dire le MEDEF, mais aussi la CGT, la CFDT, FO. Et je peux vous assurer, pour avoir vécu cela dans mon université, que ces personnalités apportaient beaucoup, beaucoup, non seulement pendant tout leur mandat, mais au moment de l'élection, c'est-à-dire en regardant très attentivement et d'un œil très différent de celui des universitaires et à plus forte raison des étudiants, les programmes des candidats. Et donc, ces personnalités, y compris venant de syndicats assez marqués politiquement, jugeait extrêmement librement, n'obéissant à aucun mot d'ordre, et je ne vais pas le faire ici, mais citer des exemples extrêmement précis de votes, j'allais dire, très surprenants par rapport à la couleur des personnalités extérieures. Donc c'est quelque chose qui est difficile à comprendre, cette mesure de la loi LRU. C'est un système, ce système électoral a jusqu'à maintenant privilégié l'élection d'un certain nombre de présidents opposés à l'application de la loi LRU, alors qu'en 2007, 2 ans auparavant, la conférence des présidents d'université y était unanimement favorable à cette loi. Donc il s'est bien passé quelque chose. Tous les présidents de 2007 étaient favorables, et vous le savez bien, ça sera off-record, mais la majorité des présidents comme des universitaires votent plutôt à gauche en France. C'est comme ça, c'est une situation française. Mais cette loi LRU, malgré son caractère jugé libéral par un certain nombre d'acteurs du monde universitaire, la CPU y était en totalité unanimement favorable. C'est après que les choses ont changé. Dernier point, ce n'est pas le moindre, en cas de difficulté grave dans le fonctionnement des établissements, le ministre ou même le recteur peuvent, à titre exceptionnel, prendre toute disposition imposée par les circonstances. Le Conseil national de l'enseignement supérieur est simplement informé de cette intervention de la puissance publique dans le fonctionnement d'une université. Vous vous en doutez, une telle mesure est difficilement applicable comme l'ont montré très récemment les événements du deuxième semestre 2008-2009. Toute intervention trop visible d'un recteur, et à plus forte raison du ministre, aurait eu pour effet de souder davantage les communautés universitaires autour des présidents qui auraient été considérés comme des martyrs. Ce qui veut dire que cette mesure, qui a l'air très sage, en cas de grand drame, le ministre prend le pouvoir, est en réalité totalement inapplicable. Pour sortir l'université française de l'impasse grave, très grave, dans laquelle elle se trouve engagée aujourd'hui, il est vrai que cette situation varie d'un établissement à l'autre, il est essentiel que la plupart des dispositions de la loi LRU soient appliquées en totalité et le plus vite possible. Au moins ça, au moins ces dispositions, dont certaines sont très bonnes, je l'ai souligné tout à l'heure, doivent être appliquées en totalité et donc les pouvoirs publics doivent veiller à ce que cette loi soit appliquée. Il n'y a qu'en France que l'on vote beaucoup de lois qu'ensuite on n'applique pas. Celle-ci doit cependant être réformée en profondeur quant au mode de gouvernance, en particulier en redonnant un rôle central aux personnalités extérieures, ce qui ne sera pas le plus facile à réaliser, vous l'imaginez, 2 ans seulement après sa promulgation et les difficiles débuts de sa mise en œuvre. Il sera très difficile aujourd'hui de changer cette modalité de la loi. Donc ça ne me paraît pas non plus la bonne solution si des parlementaires ou un ministre déposaient un amendement portant sur la gouvernance des universités dans les mois qui viennent. À nouveau, il y aurait du monde dans la rue. De toute façon, il y aura du monde dans la rue à l'automne. Ça a été annoncé par beaucoup de mouvements. La culture de l'évaluation devra beaucoup progresser. Et elle n'est pas très, très développée en France. Elle devra être indépendante. Et sans doute, à terme, ce qui est la meilleure chance de réussite, elle devra être européenne, prenant fortement en compte, parmi ses critères, l'insertion professionnelle des diplômés, qui est encore largement ignorée des établissements, comme je l'ai dit, sans négliger pour autant la visibilité internationale des recherches qui y sont conduites, l'attractivité nationale, européenne et extra-européenne qu'elle exerce en matière de recrutement d'étudiants et d'enseignants et de chercheurs. Et il y a beaucoup à faire dans ce domaine. Il me semble que l'un des moyens les plus efficaces de moderniser les universités françaises est du même coup les universités italiennes, espagnoles et grecques, qui sont à peu près dans la même situation lamentable que les universités françaises, serait d'achever, d'accélérer le processus de Bologne. Il faudrait, me semble-t-il, et c'était la conclusion de notre discussion à Maastricht il y a une semaine avec les collègues de cette université, européaniser les accréditations de diplômes, que ce ne soit plus le ministère français qui dit ce diplôme est accrédité, mais que ça vienne directement de l'Europe. Je pense que sur certains sujets, probablement Bruxelles s'occupe de trop de choses, mais sur un sujet comme celui-ci, nous avons tout à gagner à ce que les bonnes pratiques venues d'Europe du Nord s'appliquent enfin à l'Europe du Sud. Et encore pas toute l'Europe du Sud, le Portugal s'est plus réformé que la France ces dernières années. Et l'Europe du Nord, elle commence à 200 km d'ici, elle commence à la Belgique, qui, elle, est en train de réformer son système. La Belgique est intermédiaire entre le système des pays scandinaves, de l'Allemagne et surtout des Pays-Bas et le système français. Mais la Belgique est sans doute sur la bonne voie, même si tout le monde dit que les universités belges sont en crise grave. Je crois qu'il faudra adopter aussi des règles de recrutement des étudiants, des modes de financement et de gouvernance communs qui seraient plus proches des pays d'Europe du Nord, mais aussi, il faut bien le dire, ça nous a été dit au cours de plusieurs des conférences que nous avons entendues ces derniers mois, d'Amérique du Nord et du Japon. Nous devons regarder ce qui se passe dans les pays qui sont de grandes puissances. Ce n'est pas par hasard que les États-Unis sont la première puissance mondiale et que le Japon, petit pays minuscule, sans matière première de 125 millions d'habitants, est la deuxième puissance du monde encore aujourd'hui. Il va être dépassé par la Chine, mais qui a 10 fois plus d'habitants. Donc c'est bien parce qu'il a un système de transmission de la connaissance et de création du savoir et de professionnalisation qui est infiniment plus performant que le nôtre. Le brassage européen des étudiants, des professeurs, des personnels administratifs doit s'accélérer, ou même plutôt s'instaurer, tant la France est en retard par rapport à ses voisins du Nord. Cela passe évidemment par le développement du plurilinguisme. Et nous avons un vrai problème en France. Non pas qu'il ne faille pas défendre la langue française, mais nous devons être plurilingues. Pardon de citer encore un cas précis que je connais bien. J'ai eu à organiser un colloque dans un pays anglophone il y a 2 ans. J'ai eu le plus grand mal à trouver dans ma discipline 3 ou 4 collègues de mon université pouvant s'exprimer en anglais dans un colloque international. Ça n'est pas normal. Nous devons faire un énorme effort de ce point de vue-là, et c'est même le meilleur moyen de défendre notre langue française, parce que je crois aussi que les pays anglo-saxons doivent apprendre d'autres langues. Il n'est pas normal qu'il y ait de grands universitaires américains ou anglais qui ne parlent que l'anglais. Donc, tout le monde doit être plurilingue, c'est le meilleur moyen, je trouve, de vivre une mondialisation à visage humain et beaucoup plus heureuse que celle que nous imaginons en France. Les universités françaises auraient tout à gagner, je pense, à cette harmonisation européenne. À l'évidence, elles n'y sont pas intellectuellement et politiquement prêtes, le fonctionnement de leurs homologues d'Europe et d'Amérique du Nord ou d'Extrême-Orient leur paraissant dangereusement libéral. Redonner de l'attractivité et du lustre à toutes les universités françaises est une nécessité pour l'avenir de notre pays. En effet, son élite provient très majoritairement des formations sélectives qui, pour beaucoup d'entre elles, ont trop peu développé leur activité de recherche. Je sais que cette idée est contestée par certaines écoles, mais dans d'autres écoles, qu'elles soient de commerce ou d'ingénieur, c'est une évidence que la recherche est moins développée que dans les grandes universités pluridisciplinaires ou même monodisciplinaires françaises. Et au contraire, les universités, malgré tout le tableau très noir que je viens de dresser, ont un immense potentiel dans ce domaine, mais qui est en friche, qui n'est pas assez mis en valeur, pas assez valorisé et qui ne sert pas assez la société française. Puisque nous vivons entre nous, dans beaucoup d'universités, nous n'imaginons pas qu'il est essentiel de transmettre ce savoir, les résultats de ce savoir à la société et d'aider la société à imaginer des applications de ce savoir, qu'il s'agisse de philosophie, de linguistique et bien entendu de disciplines plus facilement applicables comme le droit ou comme l'économie ou bien sûr les disciplines relevant des sciences dures. Il est urgent, me semble-t-il, et indispensable de réduire la fracture entre les deux filières, sélective et non sélective. L'autonomie implique de choisir ses étudiants. Il faut que les universités puissent choisir leurs étudiants et donc s'engager à les conduire au succès. C'est-à-dire, le succès, ce n'est pas de leur donner une peau d'âne à la fin du cursus, mais une insertion professionnelle correspondant à ce cursus. Il faut donc parallèlement augmenter sensiblement le nombre des places, parce qu'il n'y aura pas de place pour tout le monde si on commence à sélectionner, entre guillemets. Il faut donc augmenter sensiblement le nombre des places dans les formations courtes, technologiques et professionnelles, IUT-BTS, qui marchent très bien en France, si possible en alternance, parce que ça aide les jeunes à comprendre la vie réelle le plus tôt possible, de manière à leur montrer, à ces jeunes, l'intérêt des règles et les règles de fonctionnement du monde du travail. En même temps, il faut faciliter le passage pour les meilleurs de ces formations courtes vers les formations longues. Et ces dernières, surtout lorsqu'elles sont généralistes et non directement professionnalisantes, ne peuvent être réservées qu'aux plus doués des étudiants. C'est l'évidence même. Il faudra donc songer aussi un jour à augmenter les droits d'inscription, ce qui est un tabou dans notre pays. Mais beaucoup de pays l'ont fait et finalement s'en portent extrêmement bien. Il suffit de demander au président des universités allemandes ou des universités anglaises ce qu'ils pensent des décisions de messieurs Blair et Schröder. Ils en sont enchantés. C'est le seul moyen réel de responsabiliser les acteurs, les usagers, de décourager les étudiants fantômes qui atteignent, j'ai peine à le dire, près du quart des effectifs dans certaines universités. Donc c'est une toute simple escroquerie à la sécurité sociale, parfois plus en fin d'année, parfois il manque 40-50% des effectifs au moment des examens de fin d'année, et les droits d'inscription permettraient de procurer d'importantes ressources nouvelles à l'université de Bonn, je cite encore cet exemple, lorsque les droits ont été augmentés à 1500 euros, passant de 150 à 1500, eh bien les effectifs ont baissé de 20%. Ces 20%, ce sont les étudiants fantômes d'une université comme Paris-Sorbonne. Donc c'est très simple, on voit très bien quelles sont les conséquences. Les étudiants motivés acceptent volontiers d'emprunter, de faire la tournée des grands-ducs dans leur famille pour trouver 1500 euros pour faire de bonnes études. On ne peut espérer rendre attractives les universités tant qu'elles disposeront d'un budget moyen aussi faible. Je vous le rappelle, 7000 euros par étudiant et par an en France, toutes disciplines confondues, 3000 à 3500 dans les universités littéraires, et pour un lycéen, 8000. Nous sommes le seul pays où un lycéen coûte plus cher qu'un étudiant d'université. Et pour les classes préparatoires, c'est 2 fois plus, 14 000 euros. Et pour les grandes écoles, c'est entre 25 et 50 000 euros le coût d'un étudiant. Évidemment, et vous le savez, pour un étudiant américain, par exemple à Princeton, à Chicago, c'est 80 000 dollars le coût d'un étudiant annuel, tout compris salaire, fonctionnement, etc. Bon, évidemment, on peut arriver à faire des choses avec 80 000 dollars, avec 7 000 euros, on ne peut pas faire de miracle. C'est même miracle que nous fassions autant de choses avec si peu d'argent. Je termine. Refuser l'autonomie, même partielle, que confère la loi, c'est exprimer la nostalgie des temps jacobins, Un peu comme si les collectivités territoriales voulaient revenir au temps d'avant la décentralisation, lorsque les préfets étaient tout puissants. Beaucoup se plaignent dans les collectivités territoriales de transferts de compétences insuffisamment accompagnés de transferts budgétaires, mais aucune ne réclame le retour à la situation antérieure. C'est l'évidence. Les universités françaises ne doivent plus se couper du pays réel et de l'avenir de sa jeunesse. On ne forme pas les cadres de la France et de la planète mondialisée sans les nourrir d'une culture du questionnement, de la remise en cause que seule la recherche peut permettre d'acquérir. Et ça, c'est la force et la spécificité des universités. Tant que les meilleurs lycéens éviteront presque tous de venir à l'université en premier cycle, sauf en médecine et peut-être en droit, notre enseignement supérieur restera bancal et illisible, incompréhensible, vu depuis l'étranger. Merci de votre attention.
Vous venez d'entendre la retransmission de la communication de Jean-Robert Pitt, membre de l'Institut, prononcée le 29 juin 2009 sur la loi du 10 août 2007 et l'autonomie des universités. Canal Académie vous propose d'ailleurs en médiathèque la retransmission des séances de l'Académie des sciences morales et politiques dans son émission En séance.